Café Santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Priorité Santé est aujourd'hui en direct de Bruxelles à l'occasion des Journées européennes du développement organisées par la Commission européenne. Un forum qui a pour objectif de voir comment l'Union européenne, les États membres et les citoyens aident à éradiquer la pauvreté et défendre les droits de l'homme dans le monde. Alors dans Priorité Santé, on se pose aujourd'hui la question de savoir comment permettre aux populations des pays en développement d'accéder aux soins et d'y accéder réellement. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, estime que près de 100 millions d'individus bascule chaque année dans la pauvreté du fait de dépenses catastrophiques de santé. De plus en plus de voix s'élèvent pour préconiser un accès gratuit aux soins. Mais la mise en place d'une assurance maladie dans les pays en développement devient donc une nécessité. Cela ne suffit pas. Ceci dit, il faut également des systèmes de santé avec des hôpitaux qui fonctionnent, des médecins et des personnels soignants suffisamment bien formés, des médicaments disponibles. On en parle aujourd'hui avec Michel Sidibé, qui est directeur exécutif de l'ONU SIDA, Daouda Diouf, qui est directeur de l'ONG Enda Santé, basée au Sénégal, mais qui intervient dans une dizaine de pays d'Afrique, et Patrick Bertrand, qui est directeur exécutif de l'ONG Avocat pour la santé dans le monde. Bonjour à tous les trois. Michel Sidibé, quand on parle de faciliter l'accès aux soins, on sait que la question du coût des soins est vraiment au cœur de ce problème. Donc, quand on parle de coût, de la gratuité en face, est-ce qu'on peut dire finalement que la prise en charge du sida dans les pays en développement, c'est un bel exemple de cette gratuité qui fonctionne ?
Bonjour Claire, je crois qu'il faut d'abord se rappeler d'où l'on vient. Il y a quelques années de cela, personne ne pensait qu'on pouvait mettre les personnes sous traitement. On avait quelques privilégiés qui avaient accès au traitement. On n'avait même pas 50 000 personnes sous traitement en Afrique. On nous disait que les Africains ne pouvaient pas prendre ce traitement parce qu'il était trop cher.
Et trop compliqué,
et qu'ils n'allaient pas pouvoir justement suivre les protocoles, et que ce serait vraiment de la résistance qui se créerait un peu partout. Mais l'assurance maladie, on en parle. Mais moi, je voudrais dire qu'il faut qu'on apprenne de la leçon apprise justement de la lutte contre le sida. Qu'est-ce qui s'est passé en quelques années ? Il s'est passé la chose suivante. On a vu une société civile qui s'est mobilisée, qui a émergé, qui a créé certainement une demande sociale un peu partout. Et on a vu les prix qui se sont brisés. On est passé de 15 000 dollars à 80 dollars. Et on est passé de 50 000 personnes sous traitement à pratiquement aujourd'hui 14 000 millions de personnes sous traitement dans le monde. Donc, je pense qu'il y a une leçon ici, c'est qu'il faut aller vers les biens publics. Lorsque nous parlons de populations qui sont pauvres, qui sont à la marge de la société, qui n'ont accès à aucun service, vous ne pouvez pas leur imposer d'aller vers
de payer
le traitement. On sait très bien qu'on n'aurait jamais sauvé la vie de ces millions de ces personnes. Je viens du Cameroun. Lorsqu'on met quelqu'un sous traitement, lorsque quelqu'un a 20 ans et qui n'a pas accès au traitement, il a une espérance de vie de 28 ans. Mais au Cameroun, aujourd'hui, on sait que lorsqu'on a 20 ans et qu'on a accès au traitement tout de suite, l'espérance de vie est de 58 ans, donc pratiquement l'espérance de vie de tout le monde.
Et ça n'a été possible qu'à cause, que grâce à la gratuité. Est-ce que ça voudrait dire que ce que vous avez mis en place en gros sur le sida, il faudrait le faire pour toutes les pathologies, ou on ne va pas pouvoir fonctionner de la même manière pour le diabète, les maladies cardiovasculaires?
Non, mais moi je crois qu'il faut aller vers ce combat, où est-ce qu'on... vraiment le combat pour les pauvres, les plus démunis. Trouver un système qui va nous permettre certainement de mobiliser des ressources domestiques plus importantes, il ne faut pas se leurrer. On n'est plus dans une dynamique où il y a une partie du monde qui a de l'argent et une partie du monde qui a les problèmes. Il faut aller vers cette responsabilité partagée. Mais ceci étant dit, moi je pense que pour les pauvres, s'il n'y a pas l'accès aux services, s'il n'y a pas la gratuité, eh bien on se retrouvera avec un problème très sérieux en termes de soins.
Je vous propose que dans cette première partie de l'émission, on parle essentiellement de la mise en place d'un système d'assurance maladie. On verra dans la deuxième partie tout ce qu'il faut faire en termes d'améliorer les hôpitaux, la formation des médecins, la disponibilité géographique. Patrick Bertrand, quels sont les pays en développement qui ont mis en place un système d'assurance maladie et qui nous prouvent que ça marche et que c'est possible?
Bonjour Claire, et merci de m'avoir invité. Il faut faire très attention quand on parle de mise en place de couverture médicale et d'assurance maladie, puisqu'il y a beaucoup de discours et sur le terrain, il y a peu de réelles actions. Et tout ça est lié, bien entendu, au problème de financement. Puisqu'on a des exemples, on a des bonnes pratiques. On a en Afrique, juste un chiffre, on a près, depuis 2010, il y a 80 pays qui ont demandé de l'aide à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pour de l'assistance technique, pour mettre en place des plans de médical
d'assurance
l'assurance maladie. Et au niveau, sinon et, au niveau,
il y a
niveau
des pays qui ont réussi.
Alors, il y a des pays hors Afrique. Un exemple qu'on montre souvent du doigt, c'est la Thaïlande depuis 10 ans. La Thaïlande depuis 10 ans a mis en place un système qui fonctionne très bien. Au niveau africain, il y a le Rwanda qu'on cite beaucoup. Et le Rwanda, ce qui est intéressant sur le Rwanda, c'est qu'ils ont réussi à mettre en place leur couverture médicale universelle. En utilisant les financements extérieurs et justement en utilisant par exemple le financement du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme pour renforcer leur système de santé et pour mettre en place ce système. Donc c'est un bon exemple d'un pays qui justement utilise les systèmes actuel pour mettre en place, pour pouvoir justement financer la santé des pays des plus pauvres.
C'est très intéressant ce que vous dites, parce que Michel Sidibé, on dit beaucoup, mais alors le sida du coup a un peu absorbé tout l'argent pour la santé, et en fait on raisonne mal quand on dit ça, parce qu'au contraire les avancées sur le sida permettent des avancées sur l'ensemble de la santé.
Bien sûr, parce que quand vous regardez par exemple en Éthiopie, ils ont créé un sous-système de santé, ils ont formé pratiquement 35 000 agents de santé communautaires, et ces agents de santé communautaire font l'interface avec la communauté. Et aujourd'hui, c'est grâce à ces agents de santé communautaire qu'on est en train de mettre en place un système de surveillance de proximité. Et moi, je suis persuadé qu'on en reparlera.
Et
de suivi de la grossesse, et on en reparlera. Si on avait le cas d'Ebola qu'on a eu, je suis persuadé
en Éthiopie,
on l'aurait contrôlé parce que l'interface avec la communauté, elle est là. Et tous ces services-là ont été financés avec des fonds qui ont été mobilisés pour le sida. Mais le diagnostic et aussi le fait qu'on ait appris à mieux gérer la dispensation des soins, aussi
les stocks de médicaments.
Et on peut dire plein d'autres secteurs sur lesquels on a pu renforcer, particulièrement aussi le système de santé.
Daouda Diouf, vous êtes basé, Inda Santé est basé à Dakar au Sénégal, même si vous rayonnez sur plusieurs pays d'Afrique. On en est où au Sénégal de la mise en place de la couverture maladie universelle? Parce qu'avec toute la question, quand je vous dis on en est où, ça couvre quoi comme maladie? Et est-ce qu'on arrive à toucher tout le monde?
Oui, merci Claire. Je voudrais dire un mot parce que j'étais là au début en Éthiopie. Je fais partie des acteurs qui ont démarré justement ce programme de Health Extension Worker et des agents communautaires. Effectivement, je peux confirmer que ça a commencé avec une expérience de lutte contre le sida qui a commencé par un système de community response qui s'appelait conversation communautaire. Et finalement, ça a porté tout le programme national et l'offre de soins aux plus démunis. Et faut savoir que l'Éthiopie est un grand pays avec un système de décentralisation qui fait que l'hôpital est très loin. Donc ils ont misé à fond sur le système communautaire pour être la première réponse. Et ça, c'est un élément qui est très important. Revenons maintenant sur le Sénégal. Je crois que depuis... les mutuelles de santé existent au Sénégal depuis très longtemps. Il faut savoir aussi que tout est parti d'initiatives communautaires. Je me rappelle que il y a un petit village qui s'appelle Fanden dans la région de Thiès qui a démarré le système mutualiste en santé et qui a été la référence. Mais je dois dire qu'il y a ça a connu un coup d'accélérateur il y a depuis l'avènement du nouveau gouvernement du Sénégal avec le président Macky Sall qui en a fait un agenda politique très important avec le ministre de la Santé.
Le ministre de la Santé,
professeur Awa Malé-Kolsek. Et très rapidement, c'était un agenda politique, mais on s'est rendu compte qu'il y a une forte demande également de la population pour avoir accès aux soins. Et pas seulement accès aux soins, mais accès aux soins, à des soins de qualité.
Mais aujourd'hui, cette assurance, parce que le problème aujourd'hui, c'est elle couvre quoi? Parce qu'en fait, le problème, il est là, c'est qu'on dit il y a beaucoup de bonnes intentions, mais ça couvre quoi? Et c'est perturbant, je pense, pour le grand public de comprendre qu'au début, une assurance santé, elle ne peut pas tout couvrir d'un seul coup.
Mais c'est exactement ça. Je crois qu'il y a l'intention politique. Maintenant, la mise en place de ce système, et on s'est rendu compte qu'il est complexe. Parce que depuis le début, depuis 2012 et jusqu'à présent, c'est maintenant que le gouvernement s'est rendu compte que pour lever les goulots d'étranglement, il faut bien mettre en place une agence qui fonctionne plus rapidement que le système du ministère de la Santé, du ministère de l'Économie et des Finances, parce qu'il y a tout un système de recouvrement de coûts par derrière. Et on ne peut pas faire ça si les factures qui sont dues aux hôpitaux, aux structures sanitaires, prestataires...
Ne sont pas payées.
Et c'est le gros problème que cela pose. Donc, du coup, on a aussi beaucoup misé sur les mutuelles, mais la couverture qui est offerte aux mutuelles va certainement des des soins de base, mais lorsqu'il s'agit de d'analyse ou d'examen plus spécialisé, ça coûte extrêmement cher et il faut monter à l'hôpital le plus spécialisé.
Pour l'instant, c'est pas, ce qui est pris en charge, c'est en gros les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et quelques pathologies de base.
Il y a un système de gratuité pour les enfants de moins de 5 ans, pour les femmes enceintes. Le gouvernement a rendu gratuit certains sont obstétricaux, par exemple les césariennes.
Alors, il y a aussi la césarienne, en fait, ça, il faut quand même le redire. C'est pas complètement gratuit. Il faut quand même un kit césarienne qui coûte, si je ne me trompe, dans les 50 euros. Pour une famille qui est très pauvre, on peut pas dire que c'est gratuit.
Oui.
Vous le savez comme moi, les plus pauvres n'y ont pas accès.
Je suis d'accord avec vous que, bon, pour une famille pauvre, une suppression d'un frais aussi petit soit-il est important, mais là, c'est pas l'acte chirurgical en soi, mais il faut acheter les ordonnances, il faut payer ceci, il faut payer cela. C'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est pas tout à fait gratuit, mais simplement le fait qu'on doit en arriver à dire c'est gratuit pose un véritable problème, c'est le problème du droit à la santé. On doit dépasser la situation où en Afrique il faut avoir à payer une césarienne, avoir à payer tous les soins qui sont connexes pour la pauvre femme qui vient du monde rural et qui est souvent complètement perdue dans le circuit de recherche de soins. Donc ça aussi c'est un problème.
On en parlera d'ailleurs dans la deuxième partie. Aujourd'hui, priorité... Oui, Michel Sidibé.
Je voudrais revenir sur cette question parce que c'est très important. Il faudrait qu'on se rappelle que, par exemple, les génériques, c'est le combat dans la lutte contre le sida qui nous a poussé lorsqu'on ne pensait pas du tout qu'on aurait pu avoir la chance de donner ces médicaments à ces pauvres. Mais c'est un combat qui n'a pas aidé seulement ces pauvres. Il y a eu un retour sur investissement extraordinaire.
Pour les pays.
Si on devait payer le médicament au même prix qu'il y a quelques années, c'est-à-dire 15 000 dollars par personne par an, ça nous aurait coûté plus de 335 milliards de dollars pour mettre les mêmes personnes qui sont sous traitement aujourd'hui, qui nous coûtent à peine 5 milliards à 6 milliards.
Donc on a fait des sacrées économies.
C'est extraordinaire comme retour sur investissement. Mais parce que, tout simplement, le combat était mené dans cet esprit d'aller vers une équité. Une équité plus grande et faire en sorte que le bien public soit une notion importante dans nos logiques de soins.
Aujourd'hui, Priorité Santé est en direct de Bruxelles à l'occasion des Journées européennes de développement. Patrick Bertrand, quand on parle de la mise en place d'un système d'assurance maladie, il faut aussi parler de son financement. C'est comment on le finance?
Tout à fait. Et je voudrais rebondir sur ce qui est dit sur le ciel, l'équité et sur les questions de pauvreté. C'est-à-dire qu'on a bien vu, les études montrent que en poussant les populations à payer même une petite partie de leurs frais pour avoir accès aux soins, on les pousse vers la pauvreté. Une étude a montré, par exemple, que un tiers des ménages en Afrique et en Asie deviennent plus pauvres, doivent faire un prêt ou alors vendre leurs biens pour avoir accès à la santé.
Un tiers obligé ou d'emprunter ou de vendre le bien. Donc on comprend bien comment ça conduit à la pauvreté.
C'est tout à fait. Et donc qui dit pauvreté dit développement économique freiné, dit donc tout un système, c'est un engrenage qui est difficile à freiner. Donc il est nécessaire, il est tout à fait nécessaire que au niveau des gouvernements, il y ait une donnée des gouvernements des pays qui ait donné une priorité à la santé. C'est un bon terme par rapport à
votre émission. Oui, c'est pas pour rien qu'elle s'appelle comme ça, cette émission.
Désolé de vous avoir pris le titre. Par exemple, d'essayer d'arriver aux 15% de budget de l'État
consacré à
la santé. Ce sont des engagements qui ont été pris par tous les ministres de la santé à Abuja, les présidents, je crois même à Abuja en 2000, et on en est très loin dans la majorité des pays. Ça veut dire aussi que maintenir et pousser pour que les pays donateurs maintiennent les 0,7% du revenu national brut qui aille à l'aide publique au développement. développement. Et nous, on pousse même pour que 0,1% du revenu national brut aille à la santé. Et on n'a pas le choix.
Et 0,7, on en est loin pour la France.
On en est très loin. Ouais, on est très loin.
On a même une baisse.
0,34. On est dans une phase descendante de la France. Et je pourrais en parler plus tard peut-être, mais qui est très très inquiétante. C'est-à-dire qu'on a un message, des donateurs actuellement qui de dire les pays doivent financer leur propre système de santé pour être pérenne. On est tout à fait d'accord avec ça. Tout le monde est d'accord avec ça. Mais on sait très bien que la situation économique de ces pays ne leur permet pas. Je vous donne souvent l'exemple. En France, on a mis en place la sécurité sociale en 1945. Ça a mis un temps nombreuses années pour la mise en place, mais en face on avait également un plan Marshall,
donc un financement
énorme. Là actuellement on demande à la majorité des pays africains de mettre en place une couverture médicale universelle et un système d'assurance maladie sans les financements, ou des financements qui sont totalement sporadiques, qui sont pas pérennes, et avoir une vision qui est totalement limitée. Donc on va, pour nous c'est très, en tant qu'association, c'est vraiment
C'est
très inquiétant.
Et Michel Sidibé, justement, vous qui êtes à la tête de l'ONU-SIDA, qu'est-ce que vous arrivez à faire pour plaider que les gouvernements du monde entier, mais aussi les gouvernements des pays du Sud, s'engagent plus là-dessus?
Vous savez, on a fait un travail énorme auprès de l'Union africaine. On a essayé de démontrer qu'il y avait une crise importante, une crise de dépendance, et qu'il fallait briser ce cercle vicieux-là. Et on a eu une feuille de route avec les chefs d'État. On essaye de les pousser à revoir un peu leur budget et faire en sorte que les budgets de la santé soient
plus importants.
Et
Le grand problème qu'on a,
dans certains cas, on peut dire, par exemple, dans la lutte contre le sida, il y a quelques années, 90% des budgets venaient, par exemple, en Afrique du Sud, des fonds extérieurs. Et aujourd'hui, ils ont 2 milliards de dollars qu'ils investissent chaque année dans la lutte contre le sida, et on voit pratiquement une augmentation de 150% venant de leur budget propre. Ils se rendent compte de plus en plus que c'est important. Mais le grand problème qu'on a, je pense qu'on l'a pas évoqué, c'est que la santé est perçue comme une dépense, comme un coût. Et tant qu'on n'aura pas compris que la santé, c'est un investissement, on n'aura pas ces transformations. Parce que notre dialogue avec les ministres des Finances n'existe pas. Nous avons un dialogue agréable avec, c'est pratiquement incestueux avec les ministres de la Santé, mais avec les ministres des Finances, on l'a pas. Mais un exemple concret. Moi, j'étais en Sierra Leone il y a à peine 1,5-2 ans. C'était une rencontre extraordinaire avec le président de la République, avec tout le monde, avec la société civile, et on était là en train de se dire, mais le Sierra Leone est parti.
Après dix ans de
crise, de violence, voilà un pays qui s'est reconstruit, qui avait une croissance économique de 14%. Mais il a fallu une crise sanitaire comme celle d'Ebola de 3 à 4 mois pour casser complètement l'économie. Et l'industrie s'est arrêtée, les investissements se sont arrêtés, plus de tourisme, plus d'écoles, plus de services de santé qui fonctionnaient. Et ils ont aujourd'hui une croissance qui frôle pratiquement le négatif. Donc, il faut qu'on comprenne qu'investir dans la santé, c'est vraiment un droit.
Ça peut rapporter, en gros.
Et que ça transforme, que ça permet l'éducation, ça permet justement d'aller vers le développement. Vous n'avez pas de développement sans des populations qui sont en bonne santé.
Est-ce que vous avez reparlé depuis avec la Sierra Leone? Est-ce que du coup ils ont conscience que...
Mais bien sûr, je pense que le ministre des Finances, tout le monde a conscience de cela aujourd'hui. Parce que ils savent que toute l'économie, elle s'est pratiquement écroulée parce que une épidémie d'Ebola. Et on n'est pas à l'abri de ces épidémies-là. Donc la santé, et je veux le dire, la sécurité globale de la santé ne sera pas une sécurité collective. Il faut arriver à aller vers une sécurité individuelle. Donc une sécurité individuelle, ça veut dire un problème d'équité, ça veut dire investir, faire en sorte que les pauvres aient accès aux services.
Si vous voulez bien, on se retrouve dans 3 minutes, hein, juste après les informations, toujours pour parler de cet accès aux soins dans les pays en développement. On a longuement parlé de l'assurance maladie. On parlera aussi de l'état des hôpitaux, de la formation des médecins, de l'accessibilité géographique. On se retrouve dans 3 minutes, juste après les infos. Baptiste Marron.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Nous sommes aujourd'hui en direct de Bruxelles à l'occasion des Journées européennes du développement. Nous essayons de voir comment permettre aux populations des pays en développement d'accéder aux soins avec Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONU SIDA, Daouda Diouf, qui est directeur de l'ONG ENDA Santé, et Patrick Bertrand, directeur exécutif de l'ONG Avocat pour la Santé dans le Monde. Partie de l'émission, on a longuement parlé de l'importance de la mise en place d'un système d'assurance maladie. Je voudrais qu'on parle maintenant plus de ce qu'il faut faire pour améliorer les systèmes de santé. J'aimerais bien quand même vous lire un message d'Inès qui nous dit, bah écoutez, j'ai perdu le message d'Inès, mais je vais peut-être réussir à le retrouver, c'est les miracles de la technique. Inès nous dit un peu des paroles, c'est bien de dire l'accès aux soins pour tous, mais finalement, des vieux purs, quand, lorsque vous avez faim, mal aux pieds, vous vous assurez de manger d'abord. La pauvreté est une spirale infernale. Elle dit bonne émission tout de même. Michel Sidibé, est-ce que c'est pas un peu, on n'est pas un peu dans les vœux pieux de dire l'accès aux soins pour tous?
Moi, je crois qu'il a raison. On est dans un monde qui n'a jamais été autant avec autant d'inégalités, avec autant d'absence d'équité. Et il a raison lorsqu'il se trouve dans un village, peut-être à Tombouctou, de penser que
parole est parole.
Et que la réalité quotidienne des gens est complètement différente. Juste pour vous dire quelque chose, 25% du poids de la maladie se trouve en Afrique. Et lorsque je venais dans cette émission, je me suis posé la question, combien d'argent on investit? Moins d'1% de la dépense totale en matière de santé se trouve être investie en Afrique. 25% du poids de la maladie, moins d'1%. Moins de 2% des médicaments sont produits sur ce continent. Donc, si on ne change pas complètement la face de cette inégalité-là, si on ne travaille pas pour faire en sorte que les services de santé soient renforcés, qu'on ait un système qui puisse répondre aux besoins des plus démunis, on ne sera pas surpris d'avoir, dans un monde qui se trouve complètement globalisé, une émergence de la situation comme Ebola.
On a l'impression que les gouvernements dans le monde, la société internationale, a découvert avec cette crise d'Ebola que les systèmes de santé de certains pays d'Afrique, et dont les trois pays les plus touchés, hein, la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria, sont dans un état catastrophique. On a l'impression que la communauté internationale le découvre. Pas vous, Michel Sidibé, oui. Clairement.
Non, moi, je pense que c'est triste, parce que quand vous regardez réellement, comment vous allez demander à un pays comme le Sierra Leone ou un pays comme la Guinée ou le Libéria, seul de faire face à une crise comme celle qu'ils ont vécue. Un pays comme la Sierra Leone a un docteur pour 45 000 personnes. Le Libéria, un docteur pour 90 000 personnes. Lorsque aux États-Unis, on a un docteur pour 400 personnes. Voilà le type d'inégalité.
Mais est-ce que la communauté internationale commence à comprendre que Ebola n'était en fait pas très contagieux, mais le jour où on a un virus nettement plus contagieux, entre autres qui se propage par air...
Et ce virus qui se propage par air, certainement qu'on l'aura. Quand, je ne sais pas. Et je ne suis pas sûr.
C'est pas la question si on va l'avoir, mais quand.
Qu'on soit préparé. Et comme je le disais, et ce qu'on a surtout appris avec cette crise d'Ebola, ce n'est pas seulement la faiblesse des systèmes de santé, mais les systèmes pour la santé n'existent pas. Les gens sont pas préparés. Les gens, le système de collecte des informations, la surveillance et comment cette surveillance-là permet de pouvoir anticiper. On a aujourd'hui une question fondamentale, c'est même l'architecture de la santé mondiale. On se rend compte qu'on n'est pas préparé du tout.
Alors, pas de langue de bois, Michel Sidibé. Cette crise a vraiment montré les limites de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Il y a quand même une réforme à faire.
Je crois que c'est pas les limites de l'OMS, c'est les limites de notre système mondial. La manière dont on perçoit la santé. Pourquoi l'OMS dans un coin va être perçu comme ce bouton magique? Je crois que
le bouc émissaire.
Le bouc émissaire. Je pense que le SIDA l'a montré. On a gagné en partie contre cette maladie parce qu'il y a eu une société civile qui a émergé, parce qu'il y a eu un activisme au niveau de la science, parce que ce n'est pas l'ONU SIDA. C'est parce que il y a eu toute cette base sociale qui s'est mobilisée, créée une solidarité qu'on n'avait pas. Aujourd'hui, l'OMS, en tant que structure, seule ne pourra pas. Il faut changer complètement cette architecture. Il faut repenser la santé à partir des communautés.
Et changer l'architecture, ça veut dire qu'il faut faire quoi?
Changer l'architecture, on a attendu combien? On a attendu plus de 6 mois avant qu'on puisse mobiliser quelques ressources financières. Aujourd'hui,
Mais Michel Sidibé, parce que l'OMS a enfin reconnu au mois d'août, et ça faisait 6 mois que l'épidémie avait commencé, que c'était une urgence.
Et parce que tout simplement, la plupart des systèmes d'interface avec les communautés ne collectent d'informations. Le système sanitaire pour permettre d'avoir l'information en temps réel, on l'a pas. Et aujourd'hui, on a la chance, comme vous le dites, que c'est un virus qui ne se propage pas aussi rapidement. Mais le jour où on aura un virus qui se propage par l'air, on n'est pas préparé. Et ça, c'est pas en disant l'OMS ne va pas. L'OMS, il faut la réformer, il faut repenser, il faut. Et je crois qu'on y travaille. Les leaders au niveau de l'OMS y pensent. Mais il faut qu'il y ait une approche plus globale.
Patrick Bertrand, comment faire quand même pour ne pas être dans des vœux pieux, comme nous interpellait cette auditrice sur Facebook? Il y en a eu beaucoup de messages qui vont dans ce sens-là.
Je vais rebondir aussi sur ce qui était dit sur les questions d'équité et sur les questions aussi de réforme de l'OMS. Moi, il me semble que l'OMS, on a vu la limite de travailler seulement qu'avec les gouvernements. Et c'est justement parce que l'OMS, pour l'instant, n'a pas mis suffisamment en place un système pour travailler réellement avec les communautés, qu'on fait face à ce problème de gouvernance de l'OMS. Et c'est vraiment un challenge que l'OMS doit vraiment faire face maintenant.
Travailler avec les communautés, mais aussi être un peu indépendant des gouvernements. Parce que ce qui a gêné l'OMS en Guinée, pour dire plus, c'est une forme de dépendance au gouvernement guinéen, parce qu'il y a une honte sur toutes ces maladies.
C'est juste changer le paradigme. C'est-à-dire que la santé, c'est pas qu'une question gouvernementale, c'est une question d'un pays. Et un pays, ça veut dire travailler avec les gouvernements, ça veut travailler avec la société civile, ça veut travailler avec le secteur privé, travailler avec tous les partenaires. Et c'est cette façon-là que justement on arrivera à pouvoir identifier quels sont les besoins et où sont les besoins. Parce que maintenant on a changé totalement de système où on a maintenant des poches de pauvreté et des poches d'épidémie qui sont d'autant plus inquiétante, par exemple, dans les pays à moyen revenu et même dans les pays à haut revenu. Ce qui veut dire qu'on ne peut plus, comme l'OMS a fait pendant des années, classifier les pays en disant il y a les pays par rapport
aux très pauvres, les moyennement pauvres,
parce que dans chacun de ces pays il y a des poches épidémiques
et puis des poches importantes. Si on prend l'Inde, pays émergent, d'accord, mais avec une population pauvre, Chine, il reste encore
c'est très très inquiétant. Par rapport, juste un exemple sur la vaccination actuellement, où par exemple l'Alliance Gavi est en train de réfléchir sur la transition des pays de financement de campagne de vaccination par l'Alliance Gavi, par un financement national, qui est lié uniquement à des critères financiers, c'est-à-dire au produit intérieur brut du pays. Mais on sait très bien que les chiffres qui sont donnés montrent qu'il y a une très grosse vaccination dans les centres, dans les villes, mais que la vaccination dans les provinces est très très peu.
Avec un autre problème en plus, c'est qu'il y a eu du coup avec Gavi de nouveaux vaccins qui sont arrivés et qui du coup sont plus chers et qui vont être plus chers pour les pays.
Après, il y a la question des coûts et la question de la propriété intellectuelle.
On peut encore se battre là-dessus, voilà. J'imagine. Daouda Diouf, vous vouliez intervenir.
Non, je crois que l'interpellation de Inès tout à l'heure
est pertinente.
Elle est extrêmement pertinente. Elle pose le lien et la perception que les populations ont de la santé et des politiques de santé. Je crois qu'il faut noter qu'il y a une remise en cause de la part des populations, parce que les systèmes qui sont mis en place ne permettent plus de répondre aux besoins en santé des populations. Ça, c'est la réalité. Ce qui s'est passé avec Ebola est doublement révélateur. Révélateur d'un système...
Oui, c'est ça. La gratuité ne suffit pas. Faut-il encore que derrière, il y ait des hôpitaux qui fonctionnent?
Absolument. Et ça pose le problème de la gouvernance mondiale de la santé qui est en panne, et qu'il faut avoir le courage de le repenser. Ça pose le problème du système de santé. Allez voir dans les pays, est-ce que les gens pensent qu'il y a un véritable service public de santé de qualité? On a l'impression, souvent en discutant avec les populations, ils vous disent il n'y a qu'à privatiser finalement. Comme ça, c'est clair. Parce que si vous allez à l'hôpital, si vous n'avez pas, vous ne pouvez pas payer, vous n'êtes pas reçu. Vous ne pouvez pas payer, vous n'avez pas accès aux soins.
Mais vous dites ça en boutade, Daouda Diouf, parce que privatiser la santé, on sait bien que si on fait ça, les pauvres n'y ont pas accès.
C'est les populations qui le disent, mais ils disent que c'est ça. Parce qu'on le présente comme
un service. La réalité, c'est qu'en fait, c'est privatisé.
La réalité, c'est que si vous ne pouvez pas payer, vous n'avez pas accès aux soins. C'est ça la réalité. Mais l'autre chose, c'est que repenser la question de la gouvernance de la santé, c'est qu'on s'est rendu compte avec Ebola que finalement, chaque acteur doit compter. Le secteur communautaire doit compter, l'hôpital doit jouer son rôle, mais ceux qui font la conception et qui sont chargés de manager la gouvernance de la santé doivent aussi jouer le rôle. Mais ce que moi je pense avoir appris de toutes ces expériences, c'est quand même on va trop vite, on saute des étapes. La pierre angulaire d'une bonne politique de santé, d'une santé des populations, ça passe par l'eau potable. Vous savez, Claire, s'il n'y a pas d'eau potable dans un pays, il y a presque 80% de ces populations qui n'ont pas accès à l'eau potable. Mais vous ne pouvez pas avoir un système de santé qui fonctionne si les gens n'ont pas accès à l'eau potable. C'est aussi simple que ça.
Un système de latrine et d'évacuation des eaux usées qui fonctionne aussi.
L'assainissement qui fonctionne.
Alors ça, c'était, excusez-moi, la bonne chose d'Ebola, c'est que d'un seul coup, en tout cas en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, tout le monde se lave les mains.
C'est comme si le monde découvrait, comme par hasard, qu'il y a ces éléments de base qui doivent être l'architecture de la santé. Et je crois qu'il faut qu'on revienne.
Et d'ailleurs, en Guinée, il n'y a pas eu d'épidémie de choléra, du coup, cette année. Alors qu'il y en a très régulièrement. Mais peut-être un lien avec le fait que tout le monde s'est lavé les mains. Non, je sais pas. Michel Sidibé. Oui, ou Daouda Diouf.
Michel disait tout à l'heure, en investissant par exemple dans le sida ou en investissant dans certains secteurs de la santé, on n'investit pas seulement pour une maladie de manière spécifique, on investit pour plusieurs maladies et on renforce un système. En renforçant le système de santé, l'accès au dépistage, l'accès aux antirétroviraux. Mais ça a changé même la nature de la relation entre le patient et le médecin traitant ou l'infirmier.
Le médecin a changé.
Oui.
Il a évolué.
Oui, mais ça a aussi permis de se rendre compte que... Parce qu'investir dans la santé, c'est une bonne chose, mais il faut bien investir dans la santé. L'investissement le plus stratégique, à mon avis, c'est de renforcer le système de santé, mais de former les professionnels de santé. On a un gros problème avec la formation des professionnels de santé. Et les populations s'en ressentent. La conséquence, qu'est-ce qu'on voit dans les pays africains? C'est le développement, dans toutes les radios et dans tous les médias, de charlatans, de professionnels, entre guillemets, de médecine traditionnelle, qui essaient d'offrir une alternative à la faillite du système de santé. Et les populations mordent à ça. Malheureusement, avec beaucoup de mauvaises conséquences. Voilà l'état de la santé en Afrique et dans le monde aujourd'hui.
Aujourd'hui, Priorité Santé est en direct de Bruxelles à l'occasion des Journées européennes du développement. On essaye de voir comment permettre aux populations des pays en développement de réellement accéder aux soins. Michel Sidibé, concrètement, on dit qu'il faut améliorer le système de santé, mais alors on fait quoi? Daouda Diouf vient de parler de la formation, ça c'est vrai que c'est un point important. Il y a une question de remettre sur pied les hôpitaux aussi.
Non, mais moi, je crois qu'il y a quelque chose qui est très important, Claire. Je disais qu'il n'y avait que 2% des médicaments qui sont produits en Afrique. Il y a 40 ans, Peter Piot découvrait le virus d'Ebola. Moi, je travaillais là il y a 35 ans. À l'époque, c'était le Zaïre, donc la République démocratique du Congo d'aujourd'hui. Mais après 40 ans, on était obligé d'aller chercher quelques sérums venant du Nord. Quelques sérums. On n'avait même pas de banque de sang correcte pour pouvoir sauver des vies. Moi, je me rappelle, étant à Bamako avec Delphracy et Margaret Chan, et on posait la question, on avait Médecins sans frontières en première ligne. Et on posait la question à un jeune Malien qui était en première ligne aussi. Il me disait, vous savez, M. Sidibé, si ma collègue espagnole, elle a le virus, elle part en Espagne. Si moi j'ai le virus,
je reste à Bamako.
Avec quel support? Avec quelle capacité de recours? Et je crois que...
Ça, on a envoyé un message épouvantable aux populations africaines avec ce système où certains sont venus se soigner en Europe et un sentiment, ce qui n'est pas en fait tout à fait vrai, que du coup on pouvait sauver les gens et qu'on ne les sauvait pas en Afrique.
Donc moi ce que je voudrais dire, c'est que il faut qu'on arrive à comprendre dans le monde développé... La recherche, elle est prise en otage par le Nord. Moi, je viens du Cameroun, où j'ai vu un centre international de recherche, Chantal Biya, avec Luc Montagnier qui les a aidés. Mais c'est des petits débuts. Mais tant qu'on n'arrivera pas à faire en sorte qu'on s'approprie de la recherche, qu'on fasse venir nos meilleurs cadres qui se trouvent à l'extérieur, qui soient capables de constituer une base de recherche et de développement pour l'Afrique, on va continuer à attendre encore. On peut produire le médicament localement. On peut faire en sorte que ça devienne pour nous une forme de prise en charge. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, vous parlez d'hôpitaux. Je suis d'accord. Mais ce qui manque, c'est vraiment un sous-système de santé. Un sous-système de santé qui va nous permettre justement...
Oui, pas que des CHU dans les capitales.
Des CHU dans les capitales. Parce que on va attendre le malade à Conakry et on n'aura jamais la possibilité d'être là où l'épidémie...
À 12 heures de route.
Et émerge. Donc, il est important pour nous de renforcer ce sous-système de santé, faire en sorte que l'interface avec la communauté puisse se faire. Donc, la recherche et le développement, il faut investir dans l'infrastructure humaine, il faut faire en sorte qu'on commence à produire nos médicaments. Il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, sur 1,3 milliard ce que représente le marché du médicament, l'Afrique représente entre 6 et 7 milliards. Et si vous enlevez l'Afrique du Sud et l'Égypte, et le Nigeria, il n'y a plus rien. Donc, je pense qu'il est indispensable de constituer ces
différences. Vous revenez, vous l'avez dit là plusieurs fois, du Cameroun. Est-ce que le Cameroun n'est pas quand même un exemple de situation de mauvaise gestion? C'est un pays qui pourrait être riche, qui a des ressources. Comment se fait-il que ce pays n'avance pas plus sur les questions de santé? Est-ce qu'il consacre justement suffisamment d'argent aux questions
de santé? Non, moi je pense, j'ai eu une discussion...
Parce que vous dites qu'il faut qu'il y ait des chercheurs au Sud, mais il faut pouvoir les financer, ces chercheurs.
Oui, je pense qu'il y a des investissements qui sont faits, mais j'ai eu un entretien avec le président de la République, j'ai partagé avec le président de la République le fait qu'il n'y avait que 6% des enfants, par exemple, qui avaient accès au traitement et que le diagnostic n'était pas fait et que les protocoles...
Et qu'est-ce qu'il vous dit,
non,
Paul Biya, dans ces cas-là?
Le président de la République, le vrai problème qu'on a souvent, il y a un décalage total entre ce qui existe au niveau du quotidien et les leaders politiques. Et il est important qu'il y ait ces ponts qui se recréent. Et lorsque ces ponts se créent, il y a tout de suite une réaction. Moi, je l'ai vu avec Ebola, lorsque le président Ibeka a décidé vraiment personnellement de s'engager, d'aller sur à Kurimalé, de démontrer à la population qu'il était là, qu'il était présent, et qu'il y croyait. Mais ça changeait complètement la nature de la mobilisation sociale, de la mobilisation des scientifiques, des communautaires pour parler de la maladie. Et je crois que le leader a un rôle clé dans la plupart de ces questions. Par exemple, en Côte d'Ivoire, je vois la première dame de la Côte d'Ivoire, Mme Alassane Ouattara, essayer de se battre pour faire en sorte que le traitement à l'enfant soit une réalité. C'est la face oubliée de tout le combat qu'on mène sur le traitement. Donc, il y a ces choses d'inégalité qui sont vraiment tellement criantes qui finissent par faire en sorte que nos économies auront du mal à démarrer si on ne réussit pas à faire en sorte que...
Et Daoud Diouf, pour rebondir sur ce que dit Michel Sidibé, beaucoup d'inéquités et beaucoup de discriminations aussi qui sont un vrai obstacle à l'accès aux soins.
Oui, et puis j'y ajoute beaucoup de... Il faut aussi régler le problème de l'accessibilité géographique de l'accessibilité géographique à la santé en général. On a ce système très
pyramidal
et j'allais dire importé pour ne pas dire colonial, qui fait
de chez nous, de la France,
oui, voilà, qui fait que on pourrait être plus inventif, plus innovatif. En mettant en place, je crois qu'à ENDA, nous, on a eu cette expérience où on a dit, on ne peut plus continuer à ce que les structures sanitaires attendent les patients. Il faut déplacer la santé pour l'amener vers les patients. L'innovation, c'est ça aussi, c'est créer un système de...
Et on revient à l'exemple de l'Éthiopie qu'on a cité dans la première partie de l'émission. Voilà. Des agents communautaires de santé qui sont dans les zones...
L'offre de soins va être mobile, va aller vers les populations, parce que on parle des populations de la santé communautaire. Mais les gens sont écartelés entre plusieurs priorités. On les sollicite pour l'eau, on les sollicite pour payer l'électricité, on les sollicite pour payer l'éducation, puis il est devenu aussi privatisé d'une certaine façon sans que ça... Ça ne le dit de manière très claire. On les sollicite pour la santé. Bertrand a dit tout à l'heure que le coût que ça a représenté sur le budget des ménages, mais c'est énorme. Maintenant, s'il faut les solliciter pour aller à 6, 7, 8 kilomètres, parfois même en transport en commun, ça pose un problème. Et on sait aussi que...
Et ça peut parfois être 12 heures de route, comme je le citais tout à l'heure, sur la Guinée.
Et vous passez toute la journée à l'hôpital.
Je voudrais revenir quand même sur cette question de discrimination, parce que je sais que c'est une de vos batailles, et je pense que Michel Sidibé voudra aussi dire des choses là-dessus. La discrimination est un obstacle à l'accès aux soins.
Complètement. C'est un accès aux soins. Et je crois que l'exemple le plus éloquent, c'est dans la lutte contre le sida. Nous savons qu'il y a un certain nombre de groupes qui sont les plus touchés, qui ont un taux une prévalence parfois 19, 20, 30 fois plus élevé que la population générale. Nous savons qu'il y a des zones et des régions qui sont plus vulnérables que d'autres et qui ont moins accès aux soins et qui font l'objet de discrimination parce que les droits des personnes sont violés parce qu'on ne le reconnaît pas parce qu'il y a une peur, il y a une discrimination.
Parce qu'il y a une peur de l'autre, de l'étranger, de celui
de
qui est différent.
Exactement. Qui est une barrière fondamentale à l'accès aux soins. Et je crois qu'il faut le redire.
Oui. Patrick Bertrand.
Et puis lié aussi aux questions de financement, on a démontré qu'en fait, comme dans un pays, un donateur se retire, les populations qui sont les plus touchées, qui n'ont plus accès à la santé, sont les populations vulnérables. Donc c'est clair que si on ne joue pas, ce n'est pas que le budget national, c'est aussi continuer l'aide extérieure. Et je voudrais rajouter aussi sur le côté abordable des médicaments, la question aussi internationale qui est des brevets. Il y a aussi une question, les pays doivent pouvoir avoir accès aux produits à un prix raisonnable et à un prix, on l'a bien vu dans le VIH-SIDA avec le fait que les antirétroviraux ont pu être mis comme génériques et produits par l'Inde. Les produits de santé ne sont pas des produits comme les autres et ils devraient être complètement exclus des accords qui sont actuellement signés, des accords qui sont négociés actuellement.
Sur la propriété intellectuelle.
Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Si on continue, nous, en tant que pays donateur, à d'un côté donner et d'un autre côté laisser les prix hauts et ne pas négocier des brevets et ne pas pousser, donner la possibilité aux pays, comme le disait Dr Sidibé, de produire localement, on mettra juste un pansement sur une plaie qui va grossir et on n'arrivera pas à long terme à trouver une solution.
Mais en tant qu'Africain, j'ai aussi envie de dire il faut aussi qu'en Afrique, on arrête de jeter la pierre sur le donateur, les pays riches, etc. Je crois qu'il y a moyen de faire quelque chose et d'investir davantage et mieux dans la santé. Les pays africains se sont engagés en connaissance de cause à investir 15% du budget national pour la santé. Presque aucun ne l'a fait. Il y a deux ou trois, et l'Union africaine dit il y en a 6, mais 6 sur 52, 53 États, ce n'est absolument rien du tout. Il y a des dépenses qui doivent être des dépenses de souveraineté. La santé en fait partie. Par exemple, quand on regarde la question des antirétroviraux, on ne peut pas, pour une question aussi importante que le VIH, que les antirétroviraux, dire qu'on attend de l'aide extérieure alors qu'il y a des ressources locales qui sont investies sur des infrastructures, sur des grandes routes, sur des autoroutes. Je crois qu'il faut investir sur la santé, le système de santé. Et en plus, je crois que Michel l'a dit, et je voulais juste réitérer, il y a quelques années, l'Afrique n'avait pas la possibilité de produire des médicaments. Nous pouvons produire des médicaments, mais ne produisant pas nos propres médicaments, nous avons créé un effet pervers, c'est que, voilà, j'ai suivi une de vos émissions, le pourcentage de faux médicaments qui circulent en Afrique, c'est un danger.
C'est une catastrophe.
Donc voilà.
Juste un dernier mot, parce qu'il nous reste 2 minutes avant la fin de l'émission. Patrick Bertrand, qu'est-ce que vous faites là aujourd'hui dans des journées européennes de développement? Vous allez voir quoi les financeurs en leur disant il faut que vous donniez plus. C'est ça votre boulot là quand vous êtes ici?
Non, notre boulot c'est déjà de mettre les chiffres en face des partenaires. C'est-à-dire leur montrer réellement quelle est la situation. Actuellement, les pays européens comptent, en incluant l'Union européenne, ne dépensent que 0,41% de leur produit intérieur brut pour l'aide publique au développement.
Donc c'est ça que vous faites quand je dis... Vous faites le tour des pays en leur disant donnez plus. C'est ça votre boulot là pendant deux jours?
Non, leur dire qu'on n'a pas le choix.
Oui, c'est ça.
C'est ça. C'est-à-dire que c'est et leur dire que c'est pas en justement en se focalisant sur le financement national uniquement maintenant qu'on arrivera justement à résoudre les problèmes de santé et qu'on est en face à des épidémies, comme le disait Michel, qui au-delà de l'Ebola, qui vont arriver et que dans le monde globalisé, on n'a pas le choix.
Michel Sidibé, donc vous qui dirigez l'ONU-SIDA, vous êtes là pendant 2 jours pour ces journées européennes de développement. C'est ça, vous faites le tour des popotes pour dire à tous les gouvernements, il faut donner, il faut agir
non,
sur
moi,
la santé.
Je vais leur dire que la solidarité globale a marché dans la lutte contre le sida et qu'on a pu démontrer qu'on pouvait avoir des résultats. On est parti de nulle part, on a influencé pratiquement le débat sur le commerce international, on a réduit le prix du médicament, on a sauvé des millions de vies. Mais moi, j'ai peur. J'ai peur parce que je pense que on risque d'avoir une crise très importante en matière de traitement. Et ce sera pas une crise morale, une crise d'éthique, mais ce sera une crise politique. Quand on aura les 2 millions, 3 millions de personnes sous traitement en Afrique du Sud qui vont être dans la rue, lorsqu'on aura 1 million de personnes au Kenya, 1 million pratiquement en Tanzanie, et qui n'auront plus accès au traitement parce qu'ils sont en train de migrer.
Vous dites quoi ? Agir sur la santé, agir pour la paix dans le monde, c'est ça ?
Agir sur la santé. Stabilité, c'est agir pour avoir une société plus inclusive, c'est agir pour transformer nos lois, c'est faire en sorte que les populations qui sont exclues auront accès aux services.
Merci beaucoup Michel Sidibé, merci Daouda Diouf et merci Patrick Bertrand. Demain, nous serons toujours ici à Bruxelles en direct des Journées européennes de développement et on parlera justement très concrètement de l'aide européenne. À demain.